Bouchard en parle, présenté par Jean Lelièvre. Éliminez vos dettes sans faire faillite, c'est possible. Jean Lelièvre, autorisé en insolvabilité. Visitez jeanlelièvresyndic.com.
15h10. Hey boy, je regarde ma liste de sujets, puis garde, je pourrais fermer les yeux, puis piger dans le tas. Comme on dit, là, pige dans le tas. Souvenez de...
pige dans le lac.
Pige dans le lac.
Pige dans le lac. Ouais. Je pourrais faire un pige dans le lac avec Donald Trump. Honnêtement. Regarde, je pourrais piger. Il veut fermer les réseaux sociaux.
Oui.
Il y en a peut-être qui vont manquer d'air. Mais c'est pas des faces, là. Trump a dit les réseaux sociaux, on va les fermer. Alors, bon. Il s'est moqué également de son adversaire, Joe Biden, avec son masque. Il a parlé de la fermeture des frontières. Il a parlé de... Bon. Fait que bref, on va aller faire un petit tour aux États-Unis. J'espère qu'on va avoir le temps pour aller au Brésil puis ailleurs un peu. Normalement, on parle de ce qui se passe partout dans le monde avec mon prochain invité, mais juste avec les États-Unis puis Trump, on risque d'en avoir pas mal. On rejoint notre expert en relations internationales, Éric Arsenault. Bonjour.
Bonjour, Sylvain.
Alors, on va y aller tout de suite avec Donald Trump. Évidemment, il y a du stock. Commençons par sa dernière déclaration. Évidemment, les gens vont dire que c'est une boutade, mais bon. Comment en est-il venu, Donald Trump, lui qui est tout le temps sur Twitter et les médias sociaux, à dire qu'il voulait fermer ça?
Ben, en fait, le problème, on le voyait venir depuis déjà un petit bout de temps. Parce que, comme tu l'as dit, Trump est un utilisateur compulsif de Twitter. C'est même dur de le suivre. Et c'est à se demander comment il trouve le temps dans sa journée de travail pour tweeter autant. Des fois, c'est des dizaines et des dizaines de messages par jour. Et tu le sais comme moi, Sylvain, bien souvent, c'est des messages qui sont de son cru. Mais ce qu'il fait également beaucoup, c'est qu'il relaie des gazouillis qui proviennent d'ailleurs. Alors, par exemple, des médias conservateurs, notamment de Fox News, qui est sa référence quand on parle d'information. Mais de plus en plus également, et surtout depuis le début de la pandémie, Donald Trump se met à relayer des thèses complotistes qui viennent des milieux d'extrême droite. Et tu as probablement entendu parler au cours des dernières semaines de cette histoire d'Obamagate, un scandale dont il dit que c'est pire que le Watergate et qui mettrait en scène Barack Obama. Bref, sans apporter aucune preuve, sans avoir de preuves substantielles autour de ces trucs-là. Et souvent, depuis, ça fait des années, Twitter s'est fait reprocher et s'est fait critiquer d'avoir une politique de deux poids, deux mesures avec le président américain. Parce que Twitter, dans ses politiques, rappelle souvent à l'ordre des utilisateurs qui bien souvent postent des publications qui sont soit racistes ou xénophobes ou mensongères ou des trucs de genre-là. Or, on le sait, Donald Trump, il lui arrive régulièrement d'envoyer sur Twitter des gazouilles qui sont erronées ou qui sont carrément mensongers. Et depuis déjà un bon bout de temps, on demande à Twitter de sévir contre le président américain, comme on le fait pour n'importe quel autre usager de Twitter. Et c'est finalement ce qui est arrivé hier. Et ce qui a mis le feu aux poudres hier, c'est que Donald Trump a relayé ou retweeté une publication qui accuse à mot à peine voilé un ancien politicien républicain qui était autrefois allié de Donald Trump, mais qui est aujourd'hui son ennemi juré, un ancien politicien républicain qui aujourd'hui travaille pour la chaîne d'information télévisée aux États-Unis, MSNBC. C'est Joe Scarborough. Et Donald Trump l'affuble depuis des années de toutes sortes de pseudonymes pas très très gentils. Il l'appelle Psycho Joe, pour te donner une petite idée. Et il a relayé hier un tweet disant à mot à peine couvert que Psycho Joe a assassiné une de ses collaboratrices il y a de cela quelques années. Ça n'a absolument aucun fondement, mais le fait que le président relaie cette information-là, ça donne de la crédibilité à cette théorie du complot qui est populaire dans les milieux d'extrême droite depuis quelques années, et notamment depuis que le fameux Joe en question est devenu un ennemi de Donald Trump. Et hier, l'époux de la dame en question, celle qui est décédée, l'époux de la défunte, a écrit au président de Twitter pour réclamer que ça cesse, en disant qu'il fallait réagir puis que ça allait un petit peu trop loin. Et Twitter, hier, c'est la première fois que ça arrive, a finalement réagi en ajoutant au tweet de Donald Trump, en tout cas celui-là, un avertissement disant « vérifiez les faits ». Ce qui laisse, donc, quand on est capable de lire entre les lignes, là, ce qui laisse entendre que cette information-là est trompeuse. Et Donald Trump a pété les plombs hier, il a été carrément piqué au vif, il crie à la censure, et comme tu y faisais référence tout à l'heure, il a menacé de réglementer ou encore de fermer carrément des plateformes de réseaux sociaux sous prétexte justement qu'on brime sa liberté d'expression et celle des milieux conservateurs. Et évidemment, dans le contexte électoral qui s'en vient pour l'automne, c'est une décision où cette menace de Donald Trump pourrait avoir des conséquences importantes. Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à mettre sa menace à exécution? Là, ça serait gros un peu. Mais juste le fait qui laisse planer la menace et le doute, s'en dit long sur son degré d'irritation par rapport à la décision qui a été prise par Twitter hier.
On est tellement rendu habitué aux frasques de Donald Trump. Moi, j'aime ça, des fois, ramener ça à notre échelle pour que les gens réalisent. Imaginez que le PM du Québec, imaginez que le premier ministre du Québec décide, il envoie un tweet sans fondement, puis il accuse un tel du PQ ou de Québec solidaire. « Hey, toi, ça a l'air que t'as tué ta femme. » C'est incroyable qu'on en soit rendu là. Puis moi, je suis contre la censure. Je suis pas mal très favorable à la liberté d'expression. Ça a des limites, mais en général, je suis dans le camp de « il faut être le plus permissif avec la liberté d'expression ». Mais quand c'est des affaires de même, puis quand ça vient du président des États-Unis, ça amène toutes sortes de questions. Là, parce que là, Twitter s'en va censurer le président américain. C'est une fonction importante. Mais j'ai compris, là, s'il dit n'importe quoi, il n'est pas au-dessus des lois. Le président n'est pas au-dessus des lois. Mais ça va amener des drôles de débats. Est-ce qu'il y a eu... Tout ça, ça se passe pas mal hier. Est-ce que dans les dernières heures ou aujourd'hui, il y a eu des développements ou il y aurait eu de nouveau là-dedans, Eric?
J'ai jeté un petit coup d'œil sur son compte Twitter aujourd'hui, mais à part relayer là, certaines informations dans lesquelles il s'en prenait aux gens de Twitter puis qu'il criait à la censure et tout le reste, j'ai pas vu grand-chose de nouveau par rapport à ça. Puis je me permets d'ajouter à ce que tu viens de dire, c'est intéressant que Twitter a pas décidé de censurer le président, c'est-à-dire d'effacer les tweets litigieux en question, simplement de mettre un avertissement pour ceux et celles qui vont les lire pour dire « faites attention, ces informations-là sont sujettes à caution ». Sont à prendre avec des pincettes, vérifier les faits et vérifier les informations. Alors, déjà, à la limite, c'est comme si on lui laissait un petit peu plus de cordes qu'à d'autres utilisateurs de Twitter. Mais pour Donald Trump, c'est définitivement trop. C'est la goutte qui a fait déborder le vase hier.
Mais tu sais, on est au-delà de la diffamation. Tu sais, l'affaire d'Obama Gate, on verra, c'est vrai que là, il crée au scandale, puis on le voit, on n'a encore rien vu. Mais on verra bien. Juste de dire Obama Gate, ça peut être diffamant, mais on verra. Mais de dire que quelqu'un a tué, c'est pas sa femme, je pense avoir dit sa femme tantôt, là. Mais
non, en fait, ça se trouve à être une de ses ex-assistantes. Et il a été prouvé que la jeune femme qui était. Parce que ce qui a alimenté les soupçons, Sylvain, c'est qu'au moment du décès de cette jeune femme-là, c'était une femme qui était dans la fleur de l'âge, une athlète qui faisait des marathons régulièrement, des trucs de ce genre-là, tout ça, puis elle était tombée dans un escalier, puis elle était décédée. Et la rumeur qui circulait à l'époque, c'est que le politicien en question, le fameux Psycho Joe, aurait une relation avec cette jeune femme-là et qui aurait cherché à la cacher, cette relation-là, en le faisant disparaître. Sauf que l'autopsie a confirmé que cette jeune femme-là souffrait d'une malformation cardiaque, et c'est ce qui est à l'origine de son décès. Mais dans les milieux complotistes et notamment d'extrême droite, et à partir du moment où ce gars-là s'est mis dans le camp adverse à Donald Trump, les théories du complot se sont mises à fuser sur le web.
Mais là, ça devient pas juste une offense envers la liberté d'expression, dans le sens où ça devient de la diffamation toute. Là, il court-circuite aussi le système de justice. S'il y a eu un meurtre, c'est le président américain. S'il pense que quelqu'un a tué quelqu'un, c'est à la police, c'est à la justice à faire son travail. Pas Donald Trump sur Twitter de régler ce cas-là. C'est en relayant ça, c'est comme si il donnait du crédit à ça. En tout cas, mettons ça de côté. Je veux que tu me parles un peu de la course, parce qu'on est en année électorale. Là. Joe Biden, on l'avait pas vu depuis un bout de temps. Là, il est sorti avec un masque, puis justement, ça a soulevé encore des critiques de Donald Trump.
Oui, effectivement. Trump en rate jamais une pour écorcher Joe Biden. Et cette semaine, c'est le fait que Joe Biden, et on se rend compte qu'aux États-Unis, t'as raison de le souligner, c'est comme si la campagne électorale avait été mise sur pause avec la pandémie. Ouais. Mais là, tranquillement, pas vite, là, les choses sont en train de reprendre. Et Donald Trump, lui, a jamais cessé, de toute façon, d'apparaître sur la place publique. Il profitait même de ses points de presse sur la COVID-19 à la Maison-Blanche pour transformer ça en espèce d'événement partisan. En tout cas, c'est plus ou moins à son avantage, là, mais il le fait quand même. Alors que Joe Biden, lui, depuis que la course à l'investiture démocrate à la mi-mars a été mise sur pause, il est complètement disparu de l'écran radar. C'était carrément éclipsé de la scène publique. Et ça lui avait d'ailleurs été reproché parce que des gens qui disaient, face à Donald Trump, qui en rate jamais une pour essayer de se mettre en évidence, il faudrait que Joe Biden également, malgré la pandémie puis malgré le confinement, se manifeste davantage et tout ça. Or, Biden, pendant pendant 2 mois est resté chez lui au Delaware. Il avait fait aménager un petit studio dans sa résidence pour justement pouvoir faire des interventions sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs fait quelques apparitions par vidéoconférence et des trucs comme ça, mais globalement, il est resté plutôt discret. Depuis quelques semaines, dans les milieux démocrates notamment, on incitait Joe Biden à sortir de son cocon, à se déconfiner dans un certain sens, mais sur la place publique et sur les médias pour tenter notamment de répliquer à Donald Trump. Alors, cette semaine, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il a fait une première apparition publique lundi aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Veterans Day. C'est, je dirais pas, c'est pas l'équivalent du jour du souvenir, mais...
C'est Memorial Day, exactement.
Alors, c'est une journée qui permet effectivement d'honorer la mémoire des anciens combattants. Et on sait qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très important, puis on a beaucoup de respect envers les anciens combattants. Et lundi, donc, et c'était frappant, Joe Biden, finalement, est sorti pour une première sortie publique. Il est allé déposer une gerbe de fleurs devant un monument commémoratif aux soldats morts au combat. Et ce qui a échappé à personne, c'est que lui et son épouse qui l'accompagnaient portaient effectivement tous les deux un masque noir. Alors que la même journée, Donald Trump et la First Lady, Melania, sont eux aussi rendus dans des événements publics pour justement honorer la mémoire des anciens combattants et eux autres ne portaient pas de masque. D'ailleurs, Donald Trump, c'est une caractéristique depuis le début de la pandémie, jamais en public on l'a vu avec un masque. Jamais. Et évidemment, des médias conservateurs ont profité de l'occasion et Donald Trump a retweeté certains de ces ces publications là pour dire voyez Joe Biden à quel point il craint les choses puis il veut pas faire de campagne de terrain parce qu'il portait un masque, etc. Alors une autre façon d'essayer là de taper sur le clou de Joe Biden.
Bon, on va lâcher un peu les États-Unis. Alors voyez que ça va être une année importante puis c'est pas terminé. Il y aura certainement d'autres frasques de Donald Trump. Entre-temps, je veux que tu me parles du Brésil un peu, Éric, parce que là aussi, il y a un personnage à la tête du pays qui est beaucoup critiqué, qui fait jaser, qui est hors norme, c'est Bolsonaro. Et au début de la COVID-19, c'en est un autre qui avait négligé un peu la maladie, qui avait tenté d'en diminuer en tout cas son importance. Et là, ça va pas bien du tout au Brésil.
Oh non. Et je pense qu'on s'en était parlé de ça quelques semaines. Je t'avais dit, le Brésil à surveiller, c'est une véritable bombe à retardement. Parce que la pandémie est arrivée beaucoup plus tard en Amérique latine, et notamment au Brésil qu'ailleurs, en Chine, en Europe et même en Amérique du Nord. Sauf que tu parles du président Jair Bolsonaro, qui est le président brésilien. T'sais, il a effectivement, un peu comme Donald Trump au début, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on le surnomme le Trump des tropiques, ça vous donne une petite idée. Et il y avait effectivement une attitude plutôt désinvolte à l'égard de cette fameuse pandémie-là, laissait entendre que c'était qu'un simple rhume et de trucs de genre-là. Et bon, si ce n'était que ça, c'est tel que tel. Sauf que, non seulement Jair Bolsonaro a, dans un certain sens, banalisé, lui est dans le déni le plus complet depuis le début au sujet de la pandémie, mais en plus de ça, c'est que il fait tout pour essayer de miner les efforts de ceux qui, au Brésil, essaient justement de contrer la pandémie. Par exemple, Jair Bolsonaro multiplie, malgré la pandémie, malgré les avis de confinement, puis malgré la distanciation, continue à multiplier les bains de foule. On l'a vu encore, pas plus tard que la fin de semaine dernière, on l'a vu. Alors, il y a un certain nombre de ses partisans qui sont carrément fanatiques à son endroit, etc., qui se rassemblent régulièrement devant le palais présidentiel. Et Bolsonaro a pris l'habitude d'aller les voir, de serrer les mains. De temps en temps, il porte un masque. Des fois, il n'en porte pas. Il prend des gens dans ses bras, etc. Bref, il fait tout le contraire de ce que son ministère de la Santé dit. Et non seulement ça, c'est qu'il mine également, parce que le Brésil est un État fédéral qui nous ressemble un peu, c'est-à-dire que t'as l'État fédéral ou l'autorité fédérale, puis t'as les États, l'équivalent de nos provinces à nous. Alors, les gouverneurs des États brésiliens, disons ça comme ça, eux autres ont adopté, dans certains cas, des mesures de confinement puis de distanciation, sauf que Jair Bolsonaro ridiculise les mesures qui sont prises par les gens dans les divers États brésiliens, en disant que ça tue l'économie, et patati patata, etc., et tout ça. Et au-delà de ça, il y a une véritable crise politique, au-delà de la crise sanitaire, puis de la crise sociale, il y a une crise également politique, parce que Bolsonaro a vu sa cote de popularité dégringoler au cours des dernières semaines en raison précisément de son attitude, et il y a une véritable crise politique parce que ses deux ministres de la Santé ont démissionné au cours des dernières semaines. Oh. Il y en a un qui a quitté en disant, regarde, moi, je peux plus rester ministre de la Santé si le président dit le contraire de ce que moi, je dis de faire aux Brésiliens. Alors, il l'a remplacé par un autre, et le deuxième ministre de la Santé a pas toffé plus que quelques jours. Lui aussi a décidé de quitter ses fonctions et de quitter son poste. Puis, on le voit, le Brésil est dans une situation où la pandémie progresse. C'est l'épicentre maintenant de la pandémie dans le monde, avec 400 000 cas, 1000 décès et même plus par jour. Ils sont, en termes de nombre de cas, là, au deuxième rang maintenant, tout juste derrière les États-Unis. Et le pire est probablement encore à venir. Il y a des scientifiques, les autorités médicales, les scientifiques le disent. Jair Bolsonaro, le président brésilien, c'est la plus grave menace à la santé des Brésiliens à l'heure actuelle, davantage peut-être que le virus d'ailleurs.
Ouf! Merci beaucoup de nous avoir parlé, Éric. Merci.
Toujours un plaisir. Salut, salut Sylvain.
Bye, Éric Arsenault, notre expert en relations internationales, qui nous parlait du Brésil. C'est intéressant. Oui. Alors, on a un autre cas encore où quelqu'un, au départ, a tout nié, puis il n'y a rien là. Puis là, c'est rendu la pire place au monde. Ou à peu près, là, si j'ai bien compris les chiffres d'Éric, ça va pas bien du tout.
Les cas sont beaucoup sous-estimés, les décès aussi, parce que il y a un pourcentage non négligeable de la population au Brésil qui vit dans les favelas, là, les fameux bidonvilles. Penses-tu que les morts dans les bidonvilles sont comptabilisés dans les rapports du gouvernement?
Alors, situation donc très triste au Brésil. Et aux États-Unis, d'autres frasques de Donald Trump. Je veux pas en parler trop parce que je trouve ça intéressant d'en parler. C'est notre voisin, tout ça, puis bon. Et je veux pas non plus, moi, quand il fait des bons coups, je suis capable d'en parler, je suis capable de le dire, mais il fait des affaires des fois. Ce qui me fascine avec Donald Trump, et c'est quelqu'un de très brillant, là, c'est qu'à un moment donné, tu sais, je donnais l'exemple tantôt, admettons que Legault ferait ça, ou Trudeau, ou n'importe qui d'autre, Macron, nommez qui vous voulez, là, okay, qui est chef d'un pays, tu commences à dire d'un de ses adversaires, fausse accusation, ça a l'air que t'as tué une femme, ou relayer des informations comme de quoi la personne a tué une femme, c'est gros, là!
Mais il pourrait jamais.
Pensez-y, jamais, ni Boris Johnson, ni Macron, juste Trump peut faire ça et garder tous ses appuis. Et là, je sais que dans notre auditoire, il y en a qui l'aiment et qui l'appuient. Bon, justement, vous pouvez me répondre, là, 25-226. Lui, malgré tout, les gens, non, on l'aime encore. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'à un moment donné, il a tellement dit, je sais qu'il dit pas juste des mensonges, là, il dit aussi des vérités, mais il a dit des mensonges. Et il en a tellement dit que ses partisans, désormais, lui pardonnent tout. Il peut tout dire. Mm-hmm. Si c'est Trump, ça passe. Si c'était quelqu'un d'autre, ça passerait pas, là. Même aux yeux des partisans de Trump, quelqu'un d'autre ferait ça. C'est quelqu'un qui, en général, dit la vérité. Personne n'est parfait. Puis là, à un moment donné, il fait une frasque quelconque. Hey, c'est comme ça passe pas.
Mais
Trump,
menteur,
Trump tout passe. Ils ont des excuses pour tout.
Mais oui, mais c'est parce que pour
tout. À un moment donné, tu deviens...
Pour une frange de l'électorat, Sylvain, Trump, c'est le sauveur, là, avec les fameuses théories du complot. Donc, Obamagate est une frange. Obamagate, en passant, il y a des articles qui ont été écrits là-dessus. Là. C'est une théorie du complot. Il n'y a absolument aucune preuve. C'est n'importe quoi. C'est simplement pour essayer de galvaniser l'auditoire trumpiste. Mais ça pogne de façon incroyable sur les médias sociaux. Là. Tous les gens qui croient en QAnon, tout ça, aux États-Unis, ils pensent que Trump, c'est un prophète, c'est un gars qui va sauver les États-Unis et le monde entier. Alors,
ouais, mais je pense qu'il y a juste les complotistes. Les complotistes,
Non, c'est 35 millions à peu près aux États-Unis. Non, mais c'est pas énormément. Là.
Dans
c'est
les 10%. Partisans de Trump, je pense pas que c'est les histoires de complot qui expliquent tout, Jean-Simon. Moi, je pense que c'est plutôt ma théorie à moi. Parce que ces gens-là, c'est des gens brillants. Il y a des gens intelligents. Moi, j'en connais des auditeurs qui m'écrivent quand je parle de Trump. C'est des gens brillants, là, mais ils le défendent tout le temps. Tout le temps. Même quand il dit des mensonges, vraiment. Non, ils le défendent. Et je pense que c'est la haine des élites. Les élites, au cours des dernières années, notamment les élites médiatiques ou les élites commerciales dans l'économie, même en politique, les élites se sont tellement déconnectées du peuple que quand Trump est arrivé, pour certains, c'était l'heure de la revanche. La revanche sur les élites, ceux qui nous regardent de haut dans les médias, dans l'économie, etc. Et à partir de là, ils ont fait de Trump leur défenseur, puis ils lui pardonnent tout.
Puis même le
là,
terme...
On pardonne tout à Trump, il a le droit de mentir, il a le droit d'attaquer, de diffamer, c'est pas grave. Je pense qu'il y a ça un peu derrière.
Puis même le terme partisan de Trump, moi je fais attention parce qu'il peut avoir un paquet de raisons dans la vie qui fait que tu votes pour telle personne au lieu de l'autre personne. Puis ça veut pas dire que t'es un partisan de ce politicien-là. Puis la raison pourquoi Trump est président des États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui vont lui pardonner tout. Puis t'as aussi une partie de la population américaine qui a voté pour lui et parce qu'il voulait pas Hillary Clinton comme présidente. C'est ça la vérité. C'est pas nécessairement des partisans de Trump.
Au début, Elisabeth. Au début, tu as raison. Les gens qui ont voté là, à l'élection avant qu'ils fassent toutes ces affaires-là, là, il y avait peut-être des gens que c'était juste parce qu'ils n'aimaient pas Clinton. Je te le donne. Mais aujourd'hui, t'en connais-tu beaucoup? T'as du monde qui dit, ah, moi, Trump, des fois, je trouve qu'il a raison. Des fois, il exagère. Je le suis pas. Moi, pas beaucoup. Moi, peut-être que c'est parce que les gens qui m'écrivent sont les plus crinqués. Moi, je connais des gens qui le détestent, d'ailleurs, des fois un peu trop, parce que tout ce qu'il dit, c'est mal. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est de la merde. Certains médias au Québec sont dans ce camp-là, d'ailleurs. Moi, je le vois. Puis, j'ai aussi du monde que, aussitôt que je parle contre Trump, c'est qu'il n'écoute plus, là. Puis, c'est trahison. Mais voyons donc, Trump a raison tout le temps. Je vois très, très peu de modérés. Moi, c'est juste ça qui m'inquiète. C'est du monde que, ouais, ouais, Trump, arrêtez, là. C'est pas vrai que tout ce qu'il dit, c'est mal. Mais en même temps, voyez bien qu'il l'échappe des fois. Il est grossier. Et des fois, ça n'a pas de bon sens. Il y a des propos que, vraiment, qu'il faut dénoncer. J'en vois pas, puis j'en connais pas beaucoup. Peut-être que je me fie trop aux médias sociaux.
Ben, c'est parce qu'il est très polarisant, Sylvain. Puis ça dépend toujours comment tu le vois. T'sais, moi, personnellement, je me considère pas comme un modéré envers Trump. Moi, je suis fondamentalement anti-Trump, anti-Bolsonaro et ce genre de politiciens-là que je considère personnellement, puis mon opinion vaut celle des autres, personnellement dangereux pour la démocratie, personnellement. Alors, je comprends qu'il polarise comme ça. Moi, je pense qu'un individu comme ça, pas tous ceux qui ont voté pour lui, il y a plein de circonstances, mais je pense que ces individus-là nous rappellent des événements fâcheux de notre histoire. C'est des gens qui ont surfé sur une frustration, sur de la peur. On voit ce qui se passe aussi avec Viktor Orban du côté de la Hongrie. Ça, c'est un repli sur soi. C'est des mesures de très, très dangereuses pour la démocratie.
Tu peux être un anti-Trump, comme d'autres peuvent être pro-Trump, puis d'autres peuvent être un peu comme moi, entre les deux, mais en tout cas, bon. Mais si t'es un anti-Trump, Jean-Simon, et t'es incapable de reconnaître certaines qualités ou certains bons coups, tu contribues au problème.
Ça, t'as raison.
Excuse-moi de te le dire de même, mais tu contribues au problème parce que les gens qui aiment Trump, là, vu que toi, si tu le détestes trop, puis tout ce qu'il dit, c'est pas bon... En quelque part, tu donnes un peu raison aux pro-Trump qui vont dire, regarde les élites ou le monde des médias, vous êtes biaisés, vous êtes pas capables de dire du bien de Trump. J'en appelle, moi, à une certaine forme de modération. Pas modération, mais dans le sens que, écoute, être capable de dire un peu, évidemment, ça va varier d'un individu à l'autre selon ses valeurs, je sais tout ça, mais des fois, quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Et moi, je vois dans la sphère, peut-être trop un peu médiatique aux réseaux sociaux, qu'il y a les pro-Trump qui lui pardonnent tout. Puis les anti-Trump qui le condamnent sur tout, ben parlez-vous entre vous autres, parce que vous vous aidez beaucoup, là. Vous vous donnez des arguments l'un l'autre, là. Ah, toi, t'es biaisé, on sait bien. Ben, toi, t'es un crinqué puis un fanatique. Toi, t'es...
Mais les extrêmes, c'est jamais bon dans tous les cas, de toute façon, parce que les extrêmes vont alimenter les extrêmes. Sylvain, il y a une conférence de presse qui commence à l'instant.
On va la pause un peu. On fait une petite pause, puis on va à la conférence de presse après.
OK, ben elle commence déjà là, là. Tu veux-tu qu'on y aille maintenant, à la conférence? Ou
bon,
tu veux
on fera la pause après, ouais.
Ouais, c'est
allons-y.
Alors, allons-y, c'est Caroline Proulx pour le tourisme.
Forêts, de la Fonde et des Parcs, M. Pierre Dufour. Ils sont accompagnés aujourd'hui du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des services sociaux, le Dr Richard Massé. Alors, bonjour à vous trois. Madame la ministre, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver. Heureuse de me retrouver à faire une annonce en tourisme. Situation qui a été très difficile pour les Québécois, on en convient, et que l'industrie touristique a vécu la crise de plein fouet. Depuis la mi-mars, je suis en lien avec les entreprises touristiques qui ont dû cesser de façon drastique du jour au lendemain leur activité. Et ça a été difficile, mais nous devions le faire pour ralentir la propagation du coronavirus. Je tiens d'abord à souligner leur collaboration, exemplaire collaboration depuis le début de la pandémie. Encore une fois, c'est une industrie qui a démontré, au-delà de sa valeur économique au Québec, son incomparable solidarité, et sa présence partout sur le territoire québécois. Enfin, les Québécois ont hâte de pouvoir planifier, d'enfin pouvoir aller jouer dehors, planifier des vacances. Et c'est donc aujourd'hui que j'ai des bonnes nouvelles pour eux.
Bon.
C'est donc en primeur et en exclusivité que je vous annonce aujourd'hui... qu'à compter du 1er juin, les Québécois pourront avoir accès aux marinas et à certains types d'hébergements touristiques. Le camping sera permis partout sur le territoire québécois à compter de cette date. Je sais qu'il y a beaucoup de campeurs saisonniers qui étaient très impatients de retrouver leur site. Je suis vraiment très heureuse que nous ayons eu aujourd'hui l'aval de la santé publique. C'est la même chose d'ailleurs pour les journaliers. La location de résidence de tourisme des établissements de résidence principale pourra aussi reprendre à l'extérieur de la CMM et de la municipalité régionale de comté qui est Joliette. Donc, ça veut dire que vous pourrez aller vous reposer dans un autre contexte et refaire le plein d'énergie. Les hôtels, d'ailleurs, seront très heureux de vous accueillir. À précision importante toutefois, le logement, le chalet ou la maison devra être loué en entier à une unité familiale à la fois, une seule unité familiale à la fois. Les pourvoiries territoires extraordinaires qu'on gagne à découvrir pourront aussi de nouveau offrir de l'hébergement. Merci à mon confrère Pierre Dufour qui apportera quelques précisions à cet égard. L'hébergement touristique dans les parcs de la CEPAC seront également ouverts à compter du 1er juin prochain. Grand pas vers l'été touristique qu'on fait aujourd'hui. C'est un pas qu'on fait grâce à vous, grâce au respect de l'engagement qu'on s'est donné tous collectivement de se protéger nous-mêmes et de protéger les autres pendant cette période. Chaque pas qu'on franchit nous rapproche de notre but, c'est-à-dire de revivre une certaine normalité qu'on souhaite dans tous les aspects de notre vie. Confiance que cette phase de réouverture du tourisme va se faire dans le plus grand respect des règles sanitaires qui sont établies, parce que la santé et la sécurité des Québécois, c'est ce que nous avons fait notre affaire depuis le début de la pandémie. Maintenant, malgré cette reprise, pour le moment, il est encore recommandé de limiter les déplacements d'une région à l'autre. Il faut en tout temps favoriser un déplacement direct vers votre destination afin de limiter les contacts. Il est donc préférable de faire vos emplettes avant de partir et de limiter ainsi les allers-retours dans les commerces une fois sur place. Profitons donc des prochaines semaines pour nous donner confiance collectivement qu'on peut, comme société, nous visiter de façon sécuritaire et de façon agréable. Avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, il y a des consignes sanitaires adaptées à leur secteur. Ces guides sectoriels qui ont été validés par la Direction de la santé publique s'ajoutent évidemment aux normes développées par la CNESST. Les entreprises devront s'y référer en tout temps pour adapter leur environnement et leur façon de faire afin d'assurer un cadre sain et sécuritaire au personnel et aux visiteurs. Aux voyageurs, on vous demande de vous assurer d'avoir pris connaissance des consignes sanitaires et de les appliquer rigoureusement. D'ailleurs, au cours des prochains jours, sur le site québec.ca, on va publier un aide-mémoire des mesures à prendre avant, pendant et après votre séjour, afin d'en avoir un qui est sécuritaire et qui respecte la santé de tous. En terminant, bien que je sois très heureuse de cette reprise, je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour un vrai retour à la normale pour l'ensemble des activités touristiques, aux entreprises touristiques, je dis, on va être là tout au long de la pandémie pour vous accompagner. On est à travailler sur les prochaines phases d'ouverture qui pourront avoir lieu seulement avec l'autorisation de la santé publique. On le répète souvent, tout doit se faire de façon graduelle, de façon séquente.
L'essentiel du message de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, elle a fait une joke un peu en commençant, dans le sens qu'elle dit, en primeur, en exclusivité, c'est parce qu'ils ont été scoopés. Là. La nouvelle avait été ébruitée dans les médias, dont le devoir bien avant. Alors, 1er juin, les campings rouvrent. On en a parlé hier en masse. Mm-hmm. Fait que c'est pas bien nouveau. Le reste, ils rajoutent peut-être pourvoirie et marina.
Oui. Marina, c'est le fun. Donc, faire du pédalo à Gabrouge, on va voir le faire.
Marina, il y a peut-être des gens qui attendaient ça. Donc, 1er juin, avec vos bateaux, go, on voyait ça. Là, il fait 30 degrés. Je voyais des images des marinas vides. Pas de bateau alors qu'il fait 30 degrés. C'est triste un peu. 1er juin, les marinas et les pourvoiries également. Mm-hmm. Les chalets vont pouvoir se louer, les hôtels, le 1er juin. Mais, c'est une bonne nouvelle, là. Mais regarde, on va la pause là-dessus. Puis vos commentaires sur 25226, on va revenir en jaser entre nous. Mais you! Mais tant que les restos sont pas ouverts, ça devient encore difficile de se promener d'une région à l'autre. Moi, je veux bien faire mon épicerie, là, ici, là. Après ça, je m'en vais dans Charlevoix ou je m'en vais à Mont-Tremblant ou en Estrie. Puis là, c'est quoi, là? Je me fais à manger dans ma chambre d'hôtel?
Ben non,
je vais chercher du take-out à tout bout de champ?
Ça fonctionne pour les chalets, pour la location de chalets, parce que souvent, les gens se font à manger de toute façon. Mais pour les hôtels, moi, je pense que ça va être difficile, là. Ça va être très difficile, parce que c'est l'attrait d'aller dans une région, entre autres, c'est de sortir puis d'aller manger un petit peu local. Le take-out, c'est bien beau, mais tu mangeras pas assez sur le trottoir pendant trois jours.
La ministre Proulx a parlé d'hôtel. Je pense qu'on n'est pas prêt. Il va peut-être avoir un peu de monde, mais ça va être difficile. Par contre, marina, pourvoirie, chalet puis camping, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouverture le 1er juin. Courte pause, on revient en jaser avec vous.
La chronique de Pierre-Yves McSween dans Bouchard en parle.
Lundi au jeudi, 16h40.
Au FM 93.
Faites du 47 votre plaisir gastronomique à la maison avec la boîte gourmande 100% Québec pour deux personnes. Un repas 6 services qui rend hommage aux producteurs d'ici. Un must pour un souper terrasse avec vos amis.
En juin, le 47 présente Goûter le Québec maritime. Une boîte gourmande qui mettra en vedette les trésors du Saint-Laurent. Pour chaque boîte vendue, le 47 remettra 30 $ à la Fondation Élan.
Sur réservation seulement pour emporter ou livraison à domicile. Voir les menus sur le47.com.
On roule à Québec de plus en plus. Il y a même du trafic. De temps en temps, Jean-Simon commence à avoir de quoi dire dans ses chroniques. Mais plus il y a de chars sur la route, ben plus il y a des chars. C'est mathématique. Il y a des choses, des bris mécaniques qui vont arriver, notamment le silencieux. Si on le voit pas venir, soudainement, c'est du plat. Parce que autant on l'a pas vu venir, une fois que c'est brisé, tout le monde le sait. Il n'y a pas juste toi là, qui le sait qu'il y a un problème avec ton char. Le voisinage, tout le monde, ça fait du bruit, c'est tannant. D'où l'importance de vous envoyer dès aujourd'hui chez Silencieux Proto. Comment ça, aujourd'hui, on n'a pas de rendez-vous? C'est sans rendez-vous. Un vrai sans rendez-vous, là. Fais partir là, maintenant. OK? Kennedy, Lévis, Saint-Claude, à Neuchâtel, on vous attend. Là, on va vous prendre en dedans d'une heure, c'est réglé, moins cher que partout ailleurs. On est expert depuis plus de 50 ans, Silencieux Proto.
Recevoir votre petit déjeuner préféré livré directement à votre porte, il n'y a pas meilleure façon de débuter votre journée. Quelle belle idée de Normandin! Tous les jours dès 9h, commandez en ligne ou par téléphone votre déjeuner parmi les assiettes disponibles comme les œufs bénédictines au jambon, la pizza déjeuner, l'assiette brunch ou l'assiette campagnarde. Profitez de votre livraison pour commander les produits normandins comme le café en grains, la pâte à crêpes ou encore le croton maison. Normandin à la maison pour le petit déjeuner, ça fait du bien.
L'Imaginaire, c'est des milliers de jeux de société, manga, BD, la plus grande sélection de casse-tête au Québec. Visitez imaginaire.com pour les meilleurs prix. Ils traitent les commandes en 24 à 48 heures et maintenant, il y a un point de cueillette à Laurier Québec. Besoin de vous changer les idées? Imaginaire.com.
La vie d'un entrepreneur est parsemée d'enjeux et d'imprévus. La situation actuelle en est un bel exemple. Libérez-vous au moins de vos problèmes de main-d'œuvre avec dispoapp.ca. Plus de 600 candidats préqualifiés disponibles pour répondre en quelques heures à vos mandats. Livreur, commis d'entrepôt, agent de sécurité, cuisinier et plus. Pour une journée, une semaine, un mois, dispoapp.ca peut combler la plupart de vos besoins de main-d'œuvre temporaire dans les heures qui suivent. Concentrez-vous sur vos opérations, on s'occupe de tout, même de la paye. Dispoapp.ca.
La toiture coule, il est temps de la changer. N'appelez pas des jobineux. Appelez Toiture Québec. Soumission gratuite et ils offrent 500 $ de rabais pour les travaux de plus de 2500 $. Toiture Québec, avec eux, c'est simple. 418-TOITURE.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer de l'Ophélia à la maison. Le chef vous a concocté un incroyable menu à la carte pour emporter du jeudi au samedi. Vous choisissez parmi une variété d'entrées, de plats principaux, de desserts et même des pièces de viande à faire cuire sur le barbecue. Tous les plats sont conçus par le chef réputé de l'Ophélia, Hugues Réaume, et sont super faciles à préparer. Pour la livraison, il dépose votre commande dans le coffre de votre auto. Aucun contact. Pour commander, appelez à l'Ophélia ou visitez restaurantophelia.com.
Vous cherchez des gens qualifiés pour l'entretien de vos arbres? Retenez ceci. Arbaud Deux Rives, élagage, abattage, essouchage, plantation d'arbres. Ils offrent un service ultra professionnel. Rive-Nord, Rive-Sud. Soumission gratuite, visitez arbauddeuxrives.com.
Bouchard en parle, présenté par Jean Lelièvre. Éliminez vos dettes sans faire faillite, c'est possible. Jean Lelièvre, autorisé en insolvabilité. Visitez jeanlelièvresyndic.com.
Bon, vous en pensez quoi de tout ça? 15h43, j'aimerais ça vous entendre ou vous lire sur 25226. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a fait des annonces. Ça avait été ébruité un peu dans les médias, mais c'est important, là. Et on va vous poser la question. Vous allez faire quoi cet été? Qu'est-ce que vous allez faire? OK, évidemment, si vous autres, c'était le camping, bien là, bonne nouvelle, vous l'avez, là. 1er juin, les campings partout au Québec, rouvrent. super bonne nouvelle. Et Marina aussi. Je sais que c'était prévu, bateau, pourvoirie, chalet. Mais là, il y a une petite condition, ça va être juste une cellule famille. Familiale. Une famille par chalet.
Un ménage.
Le reste, elle a annoncé aussi, les hôtels, elle l'a mentionné, là, mais les hôtels, ils ont jamais fermé en passant, mais elle a comme encouragé le monde, là, à aller se promener au Québec dans les hôtels.
C'est ça. Là, ça encourage le voyage interrégional, ce qui était pas vraiment, c'était pas la directive du gouvernement jusqu'à maintenant. Les hôtels étaient ouverts, mais tu sais, c'était.
Mais là, on peut.
Allez-y.
Go, chalet, pourvoirie, camping, hôtel, promenez-vous dans le Québec. Mais, compte tenu que les restos, les bars sont encore fermés, compte tenu qu'il y a encore beaucoup d'attractions touristiques, je sais pas, moi, les glissades d'eau, la ronde, il y a encore plein d'affaires de fermer, là.
Ouais.
On peut pas encore tout faire, là. On peut pas. Bon, le cinéma, c'est pas bien l'été, mais il y a encore quand même des parcs, tout ça, qui sont fermés, parcs d'attractions ou autres. Et évidemment, ceux qui voulaient voyager à l'étranger, ça, vous le savez, on pourra pas. Donc, vous vous rabattez vers quoi? Est-ce que c'est le balcon? C'est-tu la cour? Le jardinage? Encore là. Pas pour tout le monde, hein? Je lisais ce matin, fait intéressant. Ils ont annoncé, on est content, Jean-Luc Mongrain s'en vient chez nous à Montréal. Cogeco Montréal, il va remplacer Bernard Drainville sur l'heure du midi.
Oui, pendant ses vacances.
Oui, fait qu'on va voir Jean-Luc Mongrain, donc, dans la grande famille de Cogeco. Puis, il disait dans l'entrevue, il parlait de plein de choses dans la presse, mais entre autres, à Montréal, 60 % des gens n'ont pas accès à une cour ou à un balcon.
C'est fou, hein?
Ça veut dire qu'ils restent dans des blocs appartements où il n'y a même pas un balcon.
Oui.
60 % des Montréalais. Fait que, tu sais, quand on dit « Ah, ben oui, non, la pandémie, c'est pas si pire. Les gens vont se mettre à jardiner sur le bord de la piscine, planter des tomates ou encore des barbecues sur le balcon. » Ben là, vous parlez d'un monde. Ça, c'est un monde, mais c'est pas tout le monde. T'as 60 % à Montréal qui ont pas de cour et pas de balcon.
La pandémie n'est pas juste.
C'est pas
tout le monde de la même
c'est
façon.
C'est pas le même confinement, là.
Non.
Tu sais? Bon.
Non, ça, c'est confiné pour de vrai, quand t'as même pas de balcon.
Et eux autres, je sais pas quel été ils vont passer, là.
Mais c'est juste, il y a plein, c'est juste des blocs sur l'île de Montréal. Les quartiers où il y a des maisons, premièrement, c'est pas achetable, là, puis vraiment, vraiment pas achetable. Trouver une maison qui a de l'allure en bas d'1 million à Montréal, bonne chance. Mais c'est beaucoup, beaucoup des blocs appartements.
Eh oui. Puis nous autres, ici, on en a, moi, dans mon quartier, il y a beaucoup de blocs, mais ça a tous des balcons, là. Moi, je suis dans un bloc, là, honnêtement, mon condo, mais un balcon, là. Moi, je pète dehors, en face, les voisins, il y a des balcons partout, les constructions, bon. Mais à Montréal, c'est différent.
T'as des tours, t'as des HLM.
Donc, ma question, compte tenu de l'annonce qu'on vient d'avoir, puis je la pose autant à Elisabeth, à Jean-Simon, puis je me la pose aussi. Moi, j'ai pas de réponse. C'est plate. J'ai quelques plans. Je vous en ai parlé un peu hier, mais j'aimerais ça avoir des suggestions. Est-ce que ça peut être un endroit? Ça peut être, hey, moi, c'est cette ville-là, ou ce village-là, ou cette activité-là. C'est pas moi, les pourvoiries, j'ai jamais été là-dedans. Moi, tu me mets à
ben,
séjour dans
ça.
Une pourvoirie, puis aller faire de la chaloupe, puis aller me promener dans le bois, mais
ben,
c'est bon.
On n'aura pas le choix, je pense, de se découvrir d'autres intérêts cet été, là, ça, c'est sûr. Par contre, avec la réouverture du domaine du chalet, ça, je pense que ça peut donner de bonnes options pour les familles.
Moi,
parce
j'ai
que
des
juste changer d'air.
Ils
sont tous loués,
juste
non, mais les chalets,
d'air.
C'est trop tard.
Non, tu peux, non, je suis allé voir, Sylvain, il y en a plein qui sont libres encore. Hey, sur chalet-alloué.com, entre autres. Là.
Ouais, mais
juste
là,
changer d'air, Sylvain. Changer de mur, changer de couleur de peinture, changer de.
Non, peut-être qu'il y a eu des annulations parce que à ce temps-ci de l'année, c'est trop tard pour un chalet, mais là, je te le donne. Moi, j'ai été voir aussi, ça dépend. Moi, je regardais plus pour le lac Saint-Jean. Peut-être que dans ce coin-là, il n'y en a plus. Sur le bord du lac, moi, j'ai pas trouvé. Tant mieux si tu as trouvé à des endroits, mais c'est tard un peu. Ceux qui déjà avaient leur réservation, tant mieux. Eux autres vont pouvoir y aller.
Ou ceux qui ont des amis qui en ont. Moi, j'ai des invitations d'amis, non, les parents ont un chalet. Je vais peut-être les passer une couple de fin de semaine. Puis sinon, ben, y a des bonnes chances que j'aille passer du temps à Kiamika, pas loin de Mont-Laurier, parce que mon beau-père est rendu avec une ferme avec des veaux, tout ça, un gros terrain, un lac, tout le kit. Fait que je pense que ça va être proche de la nature, là, tu sais.
Un retour à la nature.
Ouais, ça va être
la ferme. C'est pas mauvais du tout, ça.
Ouais, parce que ça va vraiment changer de mon quotidien, tu sais, puis de l'environnement que j'ai autour de moi d'habitude. Fait que
là,
si vous avez des gens proches de vous.
Tu vas être une tente roulotte, parce que tu peux pas rentrer dans encore dans l'autre maison, là.
Ben, ce serait fin août qu'on va y aller. Fait qu'on va suivre les consignes rendues fin août.
Ouais, ben, je pense que rendu fin août, d'après moi, tu vas être correct.
C'est ça.
Je vous rappelle qu'en Colombie-Britannique, présentement, les rassemblements de 50 personnes ou moins sont permis à l'extérieur et à l'intérieur, les rassemblements de 10 personnes ou moins sont permis. Alors, on peut présumer que quelque part, dans un mois, deux mois, trois mois, ça va être possible?
Si, ça s'en va. Et évidemment, comme la ministre l'a dit, puis toutes les autres, Arruda, Legault, si ça va bien.
Ah ben oui,
aujourd'hui,
oui.
On a eu 89 morts en passant. Mm-hmm. Je veux pas le tout gâcher, là, mais c'est pas encore réglé ici. Colombie-Britannique, à qui on a jasé avec un infectiologue là-bas, eux autres, c'est réglé, là. Eux autres, c'est. Puis ils sont encore confinés en partie, là. Mais il y a encore des petits règlements ici et là. Mais ils ont pas de mort, là. Quasiment pas à chaque jour. Nous autres, c'est pas fini. Alors, 25226, ou appelez-moi si vous avez des idées. Même quelqu'un qui voudrait plugger commercial, sa patente, je le prendrais. Moi, je sais pas, honnêtement, encore, qu'est-ce que je vais faire de mes vacances. J'ai l'Estrie, puis peut-être les Laurentides, évidemment,
le Lac-Saint-Jean. L'Estrie, ça vaut la peine. Honnêtement, c'est une des régions du Québec qui est tellement belle et méconnue parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres endroits où on veut aller avant l'Estrie. Mais là, c'est une belle opportunité de découvrir cette région.
Moi, je vais aller au manoir. Je sais que ça coûte cher, mais m'enlève une nuit. Tu sais, des fois, tu peux aller dans une région, tu passes 3-4 nuits à un endroit correct, puis après ça, bon, tu te gâtes un peu. Puis moi, je vais aller au manoir où Bill Clinton est allé, puis sa famille m'a amené.
Ah oui, ça
m'avait surpris, ça. Tu dis, comment ça, Bill Clinton choisit un manoir dans le coin de l'Estrie? Puis j'avais été voir les photos, puis c'est vraiment beau. C'est pas donné, par exemple.
Regarde, c'est le manoir OV à North Attlee.
C'est en plein ça. North Attlee, ça a l'air beau. Je connais pas ça, jamais mis les pieds là. Le lac qu'il y a là, les sentiers, ça a l'air super beau, ça.
Vraiment.
Oh non, puis là, le manoir, ça, on verra. Là, ça, on verra les prix, puis on verra si le restaurant est ouvert.
Ben, les prix devraient être moins chers. En passant, cet été, normalement, parce que la demande va être beaucoup moins grande, l'offre, en fait, je pense que ça va être un petit peu moins cher. Ben, c'est le moment cet été de payer des chambres un petit peu plus chères.
J'ai fait un check-up là-dessus, sur Expedia. Là. Pas partout, Elisabeth. Non? Je l'ai fait encore récemment. Il y a des endroits où ils ont maintenu le prix, pareil.
Mais regarde, on va faire un test, mettons, pour le manoir au V. Là. Quand est-ce que tu veux y aller?
Non, mais le manoir OV, c'est cher. Là. Ça va être encore cher, mais tu peux checker, mettons, au mois de juillet. Là.
Bon, ils n'ont clairement pas baissé les prix.
Non, hein?
Ben, en tout cas, c'est-tu quoi? Peut-être que c'est plus cher que ça d'habitude.
Ben, moi, j'avais vu du 250-300 la nuit, ce qui est très cher, mais comme je vous dis, mettons,
au
tu vas là
juillet?
Une nuit.
OK, non, j'ai 300, j'ai pas ça du tout, là. Ça peut même aller jusqu'à 600 la nuit.
Non, c'est pas ça que j'avais vu, mais peut-être 800, que je suis tombé sur des rabais ou c'est peut-être pas les chambres les plus luxueuses.
Ah, j'ai un petit mardi soir à 305
$. Non, moi, j'avais trouvé du 250, ce que jamais qui est encore cher, là. Mais bon.
Mais non, j'ai vraiment pas 250 au mois de juillet. Il y a rien en bas de 300, puis 300, c'est un lundi, mardi soir.
Ouf.
Après ça tombe à 600 pour le jeudi, 700 vendredi.
Qui c'est qui va là?
Je sais pas.
Ça va pas baisser le prix. Qui c'est qui va là?
Ben, les restos sont fermés. J'imagine qu'ils veulent passer du temps dehors de la maison. Tu sais,
à moins qu'il n'ait pas baissé encore les prix.
Château Frontenac, il n'a pas baissé tant que ça en passant.
Non, ça c'est
vrai. J'avais checké, mais qui?
Ben, il devrait, parce que je peux te dire, Sylvain, qu'il y a 2 semaines à peu près, il y avait à peu près 3 clients dans le Château Frontenac, et dont un qu'on connaissait. Puis il me confirmait qu'il était à peu près 3 dans tout le château au complet. Fait que, à un moment donné, il y en a des gens qui habitent à Québec, Sylvain, puis qui aimeraient peut-être changer d'air le temps d'une soirée ou deux.
Mais d'après moi, peut-être que compte tenu de la COVID, pendant un bout de temps, ils ont maintenu le prix parce qu'ils voulaient justement pas que les gens commencent à dire, hey, c'est pas cher, on va se payer ça parce que c'est pas le temps là, d'avoir des rassemblements, plein de monde, puis tout. Puis ils étaient peut-être pas équipés. Mais là, vu que ça va bien, ils vont peut-être avoir le goût que leurs hôtels soient pleins, puis ils vont peut-être baisser le prix. Parce qu'il y a des endroits que c'est trop cher, hein, comme l'autre, le manoir, on n'ira pas, là. Ça va dépendre. 25-226.
Il y a quelqu'un qui pourrait nous parler des pourvoiries, parce qu'il dit, moi, j'en ai fait 150 pourvoiries au Québec. Fait qu'il dit, si vous voulez que je vous en parle, je peux vous en parler.
Je ne savais même pas qu'il y avait 150
pourvoiries
au Québec. Alors, ça commence, avec moi, ça commence à zéro, là.
Non, écoute, moi aussi, c'est zéro, fait que j'aimerais ça voir aussi.
Mais t'es-tu obligé de chasser et de pêcher? Je peux-tu être dans une pourvoirie juste pour profiter de la nature? Je ne sais pas, moi, faire du 4 roues, faire de la chaloupe, me baigner. Je peux-tu faire ça, là?
Ah oui, certainement.
Ou faut absolument que je pêche.
Ben, c'est quoi? Je me dis, si toi, tu vas là juste pour regarder le paysage, mettons, je sais pas si ça fait suer les vrais pêcheurs qui disent tu prends une place pour moi. Là,
mais t'aimerais ça limité, apprendre à pêcher? Moi, j'irais pas ça. Moi, je connais rien là-dedans.
Et j'ai pêché la dernière fois au vieux pont de fer à Héberville. Là.
OK. Ouais, ça a l'air le fun de pêcher pour
ça fait longtemps.
Ça a l'air d'être un bel univers à découvrir.
OK. Pourvoirie, je mets ça, gars.
Ça existe, ton forfait. Ça s'appelle un forfait villégiature. Merci à notre collègue Jonathan Bernard qui s'y connaît plus en pourvoirie.
Un forfait ouéreux.
Oui, c'est un forfait villégiature, puis c'est pour ouérer. Fait que t'es pas obligé de pêcher ni de chasser.
OK. Donc, on peut aller là juste pour ramasser des champignons. Ben non, je ferais pas ça. Je suis pas ce genre-là, vous comprenez. Mais juste pour apprécier la nature, on peut.
Ensuite, quelqu'un dit, on pourrait voyager au Canada. En fait, c'est assez limité pour l'instant.
Des provinces, parce que Nouveau-Brunswick, c'est fermé, fait que tu peux pas passer dans les maritimes.
On peut pas aller. Les maritimes sont barrées, ce qui est un gros problème pour les îles de la Madeleine, en passant.
Ouais.
Parce que les gens, ils passent par là. Sauf ceux qui prennent l'avion. Fait que là, ils s'inquiètent beaucoup, les îles. Je pense qu'Éric en a parlé ce midi. Là-bas, ils vont faire quoi, là, si tu passes pas par le Nouveau-Brunswick? En Ontario, on peut y aller. Mais encore là, c'est le même défi.
Il n'y a rien à faire. Tu vas aller à Toronto, tu iras au restaurant, ni voir aucun sport, ni voir absolument rien.
Les Blue Jays, à date, ne jouent pas. En tout cas, ils n'ont pas encore annoncé de quoi pour le baseball. L'aquarium, je ne sais pas si c'est ouvert ou fermé. La tour du CN. Si les parcs, les attractions sont fermées puis les restos, tu fais quoi?
Ensuite, quelqu'un dit, moi, j'avais réservé aux îles... En fait, j'ai réservé aux îles de la Madeleine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire.
Mais il va y aller comment?
C'est ça. Il ne sait pas encore. Il dit, j'ai réservé au mois d'août à suivre.
Je vous le souhaite, monsieur. C'est un endroit que j'ai adoré. J'ai découvert ça il y a 2 ans. Je vous le souhaite que ça marche. Alors, on
a... Tu sais que le ministre Fitzgibbon aussi a réservé pour les îles. Ah ouais? Il l'a dit à Eric cet été. Fait qu'il a dit, j'ose espérer qu'au moment où je vais y aller, qui est au mois d'août, il y ait plus de choses ouvertes.
Il est capable d'y aller en avion, lui, Pierre Fitzgibbon. Là.
Non, mais il parlait des restaurants surtout, des attractions touristiques rendues là-bas.
OK, parce que lui, côté transport, là, c'est correct, là, c'est mérité. Ouais. Là, il prend l'avion, puis go. Là.
Mais c'est plus pour qu'est-ce qu'on fait là-bas.
Faut que tu puisses aller manger au pas perdu ou bien à l'abri de la tempête prendre une bonne bière, là, parce que sinon, c'est plate, malheureusement.
La dernière fois que je suis revenu, moi, j'avais pris l'avion aussi, moi, de la Madeleine, parce que c'était vraiment dernière minute, puis j'avais une ministre avec moi qui était sur le vol.
Pour vrai? Lequel?
Ouais. Je me souviens plus. Caroline, c'est quoi son nom, elle?
Une ministre?
Oui.
Pour la CAQ, là? Non, c'était pas la CAQ.
C'était une ministre libérale. Ce que j'avais trouvé étonnant, c'est son garde du corps.
Ah oui?
Il faut qu'il rentre avec lui. Mais là, il y a son gun. Alors, comment rentrer dans l'avion avec un gun? Il y avait une couple de mesures.
Ah, il était armé? Ça.
Mais ils sont toujours armés.
Je pensais que c'était juste le premier ministre qui avait un garde du corps armé.
Non, les gardes du corps des.
Okay. Fait que c'est tous des policiers à ce moment-là.
C'est soit des policiers ou des anciens agents de sécurité ou des anciens gardiens de prison.
Ah, je pense. Okay.
Si t'es garde du corps, t'es soit un ancien policier. Non, même c'est pas agent de sécurité. Je pense que c'est gardien de prison ou policier.
Parce qu'agent de sécurité, t'es pas armé. T'as pas le droit d'avoir une arme.
Ouais, mais prison, oui. Les gardiens de prison, oui.
Ouais.
Puis il faut qu'il y avait une espèce de valise, tout. J'avais tout suivi le processus. Ouais. Ah, c'est complexe. Tu rentres pas dans un avion avec un gun de même.
Mais non, c'est sûr que non.
Mais là, t'as pas le choix. T'es garde du corps. Fait que, en tout cas, bref, parenthèse. Continue donc sur 25-226. Allez-y, là. Je veux juste savoir ce que vous allez faire cet été.
Ben, c'est sûr. Quelqu'un dit la pêche. Il dit la marina est ouverte. Fait que moi, je vais aller pêcher avec ma femme cet été.
Peut-être commencer ça. D'abord, on va commencer la pêche.
Comment on commence la pêche? Hein? Sais-tu, il y a-tu des formations qui se donnent? T'achètes une canne à pêche? Parce que ça, c'est intimidant comme univers. C'est des affaires qui ont l'air vraiment le fun à découvrir. Mais en même temps, je ne saurais pas comment commencer la pêche sans avoir un mentor ou quelqu'un qui m'enseigne ça.
Moi, je vous dirais, commence avec une canne.
C'est un bon départ.
Bon départ. C'est first, après ça, bon, le reste. Ensuite, c'est tout.
Quelqu'un parle de la pourvoirie Réal Massé à Saint-Zénon. Apparemment,
ça a l'air que
très
c'est Réal Massé. On le voit souvent dans les pubs hein, depuis des années. Ça a l'air que c'est de toute beauté. Il y a des pourvoiries. On a beaucoup d'amateurs en passant. On voit des images des fois. Là. Il y en a une dans le coin de la Mauricie. Là. Je me souviens pas c'est quoi. Le nom, câline de mémoire. Mais c'est tellement beau. Là. Chaque fois que je vois ça, je fais comme maudit. Pourquoi je pêche pas? Non, mais plein de ne pas être un pêcheur, j'aimerais ça être là. Mais là, si vous me dites qu'on peut y aller sans pêcher, ça m'intéresse parce que c'est de toute beauté, là, la nature, le lac. C'est-tu la pourvoirie des seigneurs? Non, c'est pas ça.
Qu'une
Caroline, ils font plein de pubs à TV. C'est en Mauricie.
Pourvoirie Lac Saint. Non, quelqu'un propose la pourvoirie du Lac Saint-Pierre.
Je pense que c'est celle-là. La seigneurie du Triton.
Ah, OK, non, on l'a pas eu comme suggestion, celle-là.
C'est peut-être celle-là. OK.
Écoute bien, ça, c'est capoté. Vas-y. Quelqu'un dit mon ami va aux îles à chaque année et elle réserve son vol Québec-Île-de-Madeleine, vol direct, en fait, depuis très, très longtemps. Et elle a été avisée la semaine dernière qu'on a changé son vol. Maintenant, son vol, c'est Québec-Toronto, Toronto-Montréal. Montréal, Île-de-la-Madeleine.
C'est incroyable.
C'est fou, hein?
Il va y manquer 2 nuits. Il va y manquer quasiment 2 nuits aux îles de la Madeleine. Ça va prendre 48 heures. J'exagère. Ça n'a pas de sens.
Mais non, trois arrêts pour aller aux îles. Ça n'a pas de bon sens.
Est-ce
que c'est le lac blanc dont tu parlais tantôt?
Peut-être, je ne sais pas.
Il y a eu 4-5 suggestions différentes, donc c'est assez difficile.
Il y a de belles pourvoiries au Québec, puis il y en a assez, je ne veux pas dire luxueux, là, mais tu sais, assez les chambres, tout ça, tout c'est beau, la restauration, moi j'aime ça, vous le savez, là. Il y en a qui sont bien équipés.
Hey, en passant, on se demandait pour les gardes du corps tantôt. Jeff Labrie, notre ancien collègue, m'a en fait donné la réponse. Les gardes du corps des ministres, ce sont des constables spéciaux. Alors pour ça, il y a un cours à Nicolette qui fait en sorte que tu peux porter une arme. C'est pas nécessairement, ça peut être des policiers, des anciens policiers, mais bref, ça, c'est le titre de constable spécial pour être garde du corps d'un ministre.
Oui, mais ils sont armés.
Oh oui, c'est ça. Ils sont armés parce que c'est un cours à Nicolette.
C'est normal.
Pour ça.
C'est normal aussi.
Ben, il faut que tu sois armé, ça, c'est sûr.
Tout à fait normal.
Sinon, le Triton, quelqu'un l'a écrit, c'est très beau. Lac Taureau aussi.
Oui, ça aussi, j'ai vu des images. Lac Taureau. C'est en Mauricie aussi, hein?
Oui.
Il me semble qu'il y avait de la pub à m'amener. J'ai vu ça. Je dis, que ça a l'air merveilleux. Pour les amateurs de plein air, merveilleux. OK, alors merci des
oui, ça ressemble pas mal à ça, sinon, les suggestions.
J'avais pas pensé à ça, les pourvoiries, mais c'est peut-être une bonne idée.
Ah, quelqu'un qui écrit au 25-26, on a réservé la route des vins dans la vallée du Niagara.
Ouais, tu vas aller en auto?
J'imagine qu'il va y aller en auto.
Ouais, tu vas être correct pour boire, mais tu vas manger. Ouais, le flanc que tu fasses ton épicerie pareil, puis te faire. Ça veut dire que ça te prend une chambre d'hôtel avec une mini cuisine.
Ouais,
cuisinette.
Ben, sinon, c'est du take-out.
Ouais. Quoi en Ontario, les restaurants sont-ils encore fermés ou ils ont rouvert, eux autres?
À ma connaissance, ils ont pas
c'est fermé,
ouvert.
Hein? C'est
ben,
fermé.
Ils sont un peu en arrière de nous, hein, même l'Ontario, sur certaines choses. Ça me
15 heures, et ben, t'as-tu vu sur les CHSLD, ils sont payés que nous autres.
Ouais.
Selon l'armée, là, dans les résidences pour personnes âgées, ça n'a pas le même nom. L'Ontario est même pire.
Non, ça a été comme ça partout, les centres pour personnes âgées. On n'est pas plus cave ici au Québec qu'ailleurs. Là. Ça a été vraiment comme ça, même en Colombie-Britannique. Là,
on
c'est
va en parler tantôt des CHSLD un peu plus tard. Pour l'instant, la pause.
Québec et Sainte-Foy Mitsubishi vous offrent le VUS branchable le plus vendu au monde, le PH. Achevé à 0% d'intérêt sur 84 mois. 217 $ aux deux semaines plus taxes. Qui seront les chanceux? Il en reste juste 8. Québec et Sainte-Foy Mitsubishi.
Unicanva, le plus grand spécialiste des abris et auvents sur mesure, est ouvert. Auvents, verrières, toiles, abris, c'est enfin temps de préparer votre saison. On vous conseille et vous achetez directement du manufacturier. Unicanva, auvents et abris. Unicanva.com.
Je vous parle de pièces d'auto. Économique. Vous entendez ça à la radio, pièces d'auto économique, vous vous dites, d'après moi, eux autres sont moins chers. Ils doivent avoir tout qu'un inventaire, puis ils ont du stock, puis je vais sauver, j'ai besoin de pièces, je veux pas payer trop cher, ouais. Mais la pièce d'auto économique, pour certains, ça peut vouloir dire, sont moins chers. Est-ce que c'est parce que c'est usagé ou du réusiné ou de moins? Moi, je veux mettre de la qualité, car ça a brisé, mais mon char, là, je veux avoir la paix, je veux mettre des bonnes pièces. C'est du neuf. C'est du neuf, c'est du original, c'est que ça, c'est de la qualité. On est moins cher. Vous l'avez deviné parce qu'on a un gros inventaire, on achète en gros, on vient d'ouvrir. Il y a des succursales un peu partout, pièces d'auto économique, mais celle sur Charest, c'est 10 fois encore l'inventaire, c'est gros. Votre pièce, là, on l'a, puis moins cher. Cassez-vous pas la tête, pièces d'auto économique.
La vie d'un entrepreneur est parsemée d'enjeux et d'imprévus. La situation actuelle en est un bel exemple. Libérez-vous au moins de vos problèmes de main-d'œuvre avec dispoapp.ca. Plus de 600 candidats préqualifiés disponibles pour répondre en quelques heures à vos mandats. Livreurs, commis d'entrepôt, agents de sécurité, cuisiniers et plus. Pour une journée, une semaine, un mois, dispoapp.ca peut combler la plupart de vos besoins de main-d'œuvre temporaire dans les heures qui suivent. Concentrez-vous sur vos opérations, on s'occupe de tout, même de la paye. dispoapp.ca.
Vous avez besoin d'une nouvelle paire de chaussures, allez à la vente d'entrepôt de Leclerc Chaussures. Ça se passe en mai, là. Il y a encore quelques jours où vous pouvez en profiter. On a des choix de quoi? Ben, de bottillons, de bottes pour l'année prochaine, bien sûr, parce que c'est pas à 40 degrés de température ressentie qu'on va porter des bottes. Mais c'est le temps d'y penser parce qu'on va avoir un hiver l'année prochaine. Alors, des rabais sur les bottillons et bottes, mais aussi sur les sandales, les souliers, les sacs à main et tout ça. On a des nouveautés là-dedans, là. C'est pas juste les rabais sur le vieux stock. On a aussi des nouveautés où on a de grands rabais. Ça vaut vraiment le déplacement. Évidemment, on a mis en place des mesures sécuritaires pour assurer votre santé. Et si vous êtes un petit peu plus craintif, bien, c'est toujours possible de magasiner en ligne. Ça se fait très, très bien et vous allez avoir des rabais en ligne également. Où on se trouve pour ça? Bien, les boutiques Leclerc Chaussures, Moi Mes Souliers et Ricœur Québec. Leclerc Chaussures au 1034 rue Cartier, Moi Mes Souliers au 1183 rue Saint-Jean et Ricœur Québec au 1024 rue Saint-Jean. Leclercchaussures.com.
Avoir le choix, avouez que c'est un plus. Chez Enviroconfort, on le sait que vous n'avez pas les mêmes besoins en climatisation et chauffage et on le sait que vous avez des goûts différents pour les promos. On vous laisse donc choisir. Déjà que les prix sont ultra compétitifs, Enviroconfort vous offre un financement 6 mois sans aucun paiement ou un rabais de 250 $ sur les équipements de chauffage ou climatisation en plus d'une remise manufacturière Lennox, Carrier ou Panasonic pour un temps limité chez Enviroconfort. Enviroconfort.com.
Dérouter l'ordinaire. Avec Audi Sainte-Foy.
Nos départements des ventes de véhicules neufs et usagés sont maintenant ouverts. Afin d'assurer votre sécurité et celle de nos employés, nous avons mis en place toutes les mesures d'hygiène et de protection nécessaires. Nos conseillers sauront bien vous accompagner sur place en concession, par téléphone et par courriel.
Vivez l'extraordinaire signé Audi Sainte-Foy, rue Einstein, Québec.
Comme on vient de passer plusieurs semaines en dedans, faites attention de ne pas tout garder en dedans. C'est normal de ressentir du stress, de l'angoisse ou même de la tristesse. Parce qu'on n'a pas besoin d'être infecté pour être affecté. N'hésitez pas à consulter le site québec.ca/allez-mieux pour des conseils. Se protéger, c'est aussi protéger son bien-être. Un message du gouvernement du Québec.
Le monoxyde de carbone tue. Le saviez-vous? Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et insipide, aux effets néfastes sur la santé, qui se crée lorsque des appareils brûlent un combustible comme le propane, l'éthanol, le bois, le mazout. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter et signaler la présence de ce gaz. Renseignez-vous sur la réglementation au ville.quebec.qc.ca/monoxyde. ville.quebec.qc.ca/monoxyde.
Bon, mon chum adore la viande, ma fille ado mange végé, mon plus jeune que des pâtes, puis moi j'aime ça manger santé. Compliqué de gérer les repas. Pas pantoute, avec toutcuit.ca, la vie est plus facile. De délicieux repas prêts à manger de qualité traiteur à partir de $5.99 par portion, cuisinés à Québec et livrés chez vous. Toutcuit.ca vous propose aussi des thématiques asiatiques, réconfortantes, italiennes, végétariennes, keto santé et plus. Épargnez $25 sur votre première commande avec le code promo FM93. Toutcuit.ca, une division du groupe Je reçois.
FM93, cœur de Québec. FM93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM93, Québec.